Je me réveillais en sentant des coups qui me résonnaient dans la tête. J'étais allongé sur le sol et Guillaume me donnait des claques sur les joues. Je n'étais plus dans la pièce aventureuse et mes yeux aperçurent un cartouche qui disait « Requiescant a laboribus suis ».«
Allons, allons, Atso !» me murmurait Guillaume. « Ce n'est rien !»«
Les choses ?» dis-je encore divagant. « Là-bas, la bête !»«
Point de bête !»
Je t'ai trouvé qui délirait au pied d'une table où se trouvait une belle apocalypse mozarabique, ouverte à la page de la moulière Amicta Solé qui affronte le dragon. Mais je me suis aperçu, d'après l'odeur, que tu avais respiré quelque chose de mauvais et je t'ai aussitôt emporté. Moi aussi, j'ai mal à la tête.
Mais qu'ai-je vu ?
Tu n'as rien vu. C'est que là-bas, il brûlait des substances capables de donner des visions. J'ai reconnu l'odeur. C'est une chose arabe, peut-être la même que le vieillard de la montagne donnait à humer à ses assassins avant de les pousser à leurs entreprises. Et voilà, nous avons expliqué le mystère des visions. Quelqu'un dépose des herbes magiques pendant la nuit pour convaincre les visiteurs inopportuns que la bibliothèque est protégée par des présences diaboliques. Qu'as-tu éprouvé au juste ? Confusément, selon qu'il m'en souvenait, je lui racontais ma vision et Guillaume rit. Pour la moitié, tu grossissais ce que tu avais aperçu dans le livre, et pour l'autre moitié, tu laissais parler tes désirs et tes peurs. Ce sont là les opérations qu'activent de pareilles herbes. Demain, il faudra en parler avec Séverin. Je pense qu'il en sait plus long qu'il ne veut nous faire accroire. Il s'agit d'herbes, rien que d'herbes, sans besoin de ces préparations dont nous parlait le verrier. Herbes, miroirs. Ce lieu du savoir interdit est défendu par de nombreuses et fort savantes inventions. La science utilisée pour occulter au lieu d'éclairer. Je n'aime pas cela du tout. Un esprit pervers préside à la sainte défense de la bibliothèque. Mais ce fut une nuitée pénible. Il faudra sortir pour l'instant. Tu es bouleversé et tu as besoin d'eau et d'air frais. Inutile de chercher à ouvrir ces fenêtres, trop hautes et sans doute fermées depuis des dizaines d'années. Comment ont-ils pu penser qu'Adèle s'est jetée d'ici ? Sortir, disait Guillaume, comme si ça avait été facile. Nous savions que la bibliothèque n'était accessible que d'une seule tour, l'orientale. Mais où étions-nous à ce moment-là ? Nous avions complètement perdu notre orientation. Nous dûmes errer longtemps avec la crainte de ne jamais plus sortir de ce lieu, moi toujours vacillant, pris de haut le cœur, Guillaume plutôt inquiet pour moi. Et cette errance nous donna, ou plutôt lui donna, une idée pour le lendemain. Il faudrait que nous revenions dans la bibliothèque, en admettant que nous en sortions jamais, avec un tison bien brûlé ou une autre substance propre à laisser des signes sur les murs. Pour trouver la sortie d'un labyrinthe, récita en effet Guillaume, il n'y a qu'un moyen. À chaque nœud nouveau, autrement dit jamais visité avant, le parcours d'arrivée sera marqué de 3 signes. Si, à cause de signes précédents sur l'un des chemins du nœud, on voit que ce nœud a déjà été visité, on placera un seul signe sur le parcours d'arrivée. Si tous les passages ont été déjà marqués, alors il faudra reprendre la même voie en revenant en arrière. Mais si un ou deux passages du nœud sont encore sans signe, on en choisira un quelconque pour y apposer 2 signes. Quand on s'achemine par un passage qui porte un seul signe, on en apposera 2 autres, de façon que ce passage en porte 3 dorénavant. Toutes les parties du labyrinthe devraient avoir été parcourues si, en arrivant à un nœud, on ne prend jamais le passage avec 3 signes, sauf si d'autres passages sont encore sans signes.
Comment le savez-vous ? Vous êtes expert en labyrinthe ?
Non. Je récite un extrait d'un texte antique que j'ai lu autrefois.
Et selon cette règle, on sort ?
Presque jamais, que je sache. Mais nous tenterons quand même. Et puis, dans les prochains jours, j'aurai des vers et j'aurai le temps de mieux me pencher sur les livres. Il se peut que là où le parcours des cartouches nous embrouille, celui des livres nous donne une règle.
Vous aurez vos vers ? Comment ferez-vous pour les retrouver ?
J'ai dit que j'aurai des vers. J'en ferai d'autres. Je crois que le verrier n'attend rien tant qu'une occasion de ce genre pour faire une nouvelle expérience, s'il a les outils qu'il faut pour biseauter les tessons. Quant aux tessons, ce n'est pas ce qui manque dans cette boutique-là. Tandis que nous errions cherchant notre chemin, tout à coup, au beau milieu d'une pièce, je me sentis caressé au visage par une main invisible, alors qu'un gémissement qui n'était pas humain et n'était pas animal se répercutait jusqu'à la pièce voisine, comme si un spectre rôdait de salle en salle.
J'aurais dû être préparé aux surprises que nous réservait la bibliothèque, mais une fois de plus, je fus terrorisé et fis un bond en arrière. Guillaume aussi devait avoir eu une expérience semblable à la mienne, car il se touchait la joue en levant bien haut la lampe et en regardant tout autour de lui. Il leva une main, puis examina la flamme qui paraissait à présent plus vive, après quoi il s'humecta un doigt et le tint droit devant lui. « C'est clair, » dit-il ensuite, et il me montra deux points sur deux murs opposés à hauteur d'homme. Deux étroites meurtrières s'ouvraient là, et en y approchant la main, on pouvait sentir l'air froid qui provenait de l'extérieur. Si l'on y approchait l'oreille, alors on entendait un bruissement, comme si dehors le vent soufflait. « Il fallait bien que la bibliothèque ait un système d'aération, » dit Guillaume. « Sinon l'atmosphère serait irrespirable, surtout l'été. En outre, ces raillères fournissent aussi une juste dose d'humidité, afin que les parchemins ne sèchent pas. Mais l'habileté des fondateurs ne s'arrête pas là. En disposant les raillères selon certains angles, ils se sont assurés que par les nuits de vent, les souffles qui pénètrent par ces orifices se croisent avec d'autres souffles et s'engorgent dans l'enfilade des pièces, produisant les sons que nous avons entendus. Ces sons, unis aux miroirs et aux herbes, augmentent la peur des imprudents qui pénétreraient ici, comme nous, sans bien connaître les lieux. Et nous-mêmes avons pensé pendant un instant que des fantômes nous respiraient sur le visage. Nous nous en sommes rendus compte à présent seulement, parce qu'à présent seulement le vent s'est levé. Et voilà, un autre mystère résolu. Mais avec tout ça, nous ne savons pas encore comment sortir. Tout en parlant, nous déambulions à vide, perdus désormais, négligeant de lire les cartouches qui apparaissaient tous égaux. Nous tombâmes sur une nouvelle salle heptagonale, circulâmes à travers les pièces voisines, ne trouvâmes aucune sortie. Nous revînmes sur nos pas, marchâmes pendant presque une heure, renonçant à savoir où nous étions. À un certain point, Guillaume décida que nous avions perdu la partie. Il ne nous restait plus qu'à nous mettre à dormir dans quelques salles et à espérer que le lendemain, Malachie nous trouverait. Tandis que nous nous lamentions sur la fin minable de notre belle entreprise, nous retrouvâmes inopinément la salle d'où partait l'escalier. Nous remerciâmes le ciel avec ferveur et descendîmes pleins d'une grande allégresse. Une fois dans les cuisines, nous nous précipitâmes vers la cheminée, entrâmes dans le couloir de l'ossuaire, et je jure que le ricanement mortifère de ces têtes nues me fit l'impression du sourire de personnes chères. Nous rentrâmes dans l'église et sortîmes par la porte septentrionale, nous asseyant enfin heureux sur les dalles de pierre des tombes. L'air roboratif de la nuit me sembla un baume divin. Les étoiles brillaient autour de nous et les visions de la bibliothèque me semblèrent très lointaines. « Comme il est beau le monde et comme ils sont laids les labyrinthes !» dis-je avec soulagement. « Comme il serait beau le monde s'il y avait une règle pour circuler dans les labyrinthes !» répondit mon maître. « Quelle heure peut-il être ? » demandai-je. « J'ai perdu le sentiment du temps, mais il sera bien de nous trouver dans nos cellules avant que sonne matine. » Nous longeâmes le côté gauche de l'église, passâmes devant le portail, je me détournais pour ne point voir les vieillards de l'Apocalypse, super tronos wiginti quatuor, et nous traversâmes le cloître pour regagner l'hôtellerie. Sur le seuil se trouvait l'abbé qui nous regarda avec sévérité. « Je vous ai cherché toute la nuit, » dit-il à Guillaume. « Je ne vous ai pas trouvé dans votre cellule. Je ne vous ai pas trouvé dans l'église. » « Nous suivions une piste, » expliqua Guillaume, visiblement embarrassé. L'abbé le fixa longuement, puis il dit d'une voix lente et sévère, « Je vous ai cherché sitôt après compli. Béranger n'était pas dans le cœur. « Que me dites-vous là ? » fit Guillaume d'un air hilar. En effet, lui était clair maintenant l'identité de celui qui s'était niché dans le scriptorium. « Il n'était pas dans le cœur accompli, » répéta l'abbé, « et il n'a pas regagné sa cellule. Matine va sonner, et nous contrôlerons maintenant s'il réapparaît. Autrement, je redoute quelque nouveau malheur. » À Matine, Béranger n'était pas là.